voix nue. Ce soir, du cours Simon au théâtre de la gastronomie du Grand Véfour.
Bonjour Michel Oliver. Alors hier nous étions à Langon et aujourd'hui, magie du chemin de fer, nous sommes à Paris.
On va arriver à Paris. Je suis encore à Langon. J'étais chez mes grands-parents. Les vieux cons, car il y a des vieux cons, c'est terrible. Les vieux cons, les pontifiants. Oh, faites très attention, vous allez voir Jean Cocteau, c'est un monstre. Même j'étais ravi, moi, dans la... Mais à Langon, pour les gens, Jean Cocteau, c'était le diable, quoi.
Mais qui vous disait ça?
Les pensionnaires de l'hôtel Oliver, qui étaient là, les cons pontifiants qui essayaient de payer 3 sous pour manger, eh bien. Et j'arrive à Paris. Et l'arrivée à Paris, ça a été épouvantable. J'étais un mec costaud, là, hein, j'étais un mec du rugby, attention, ça. Et mon père me dit, tiens, tu vas en face, il y a un mec qui tient le bar, là, il est sympa. Je vais en face voir le mec qui tient le bar pour boire un coup. Et je lui parle, et il me parle avec la sonde chez moi. Je lui dis, se fout de ma gueule, je vais lui taper. Et c'était pas vrai. Il était du même pays que moi, mais j'ai failli lui démonter la tête, bêtement. Et là, j'avais honte de mon accent. Évidemment, j'étais...
Quel accent ?
L'accent du sud-ouest, le mien, quoi. Et là, je me dis, bon, je vais essayer de perdre mon accent. Je n'y arrive pas, bien sûr, et je suis en cuisine. Mon père me donne des spécialités à faire, 2 spécialités que je ne pourrais plus jamais rater de ma vie. C'est la sole Grand Véfour et le rognon 3 moutardes. Ça, c'est les 2 plats que je faisais, moi.
Qui sont ce qu'on appellerait aujourd'hui un plat signature à l'époque.
Plats signatures, oui. Et puis, le temps passe et là, je suis appelé à l'armée. Mon père s'était débrouillé. Il avait besoin de moi pour que je fasse la réception le soir au Véfour. Donc, il s'était débrouillé pour me mettre à Paris, au ministère de l'Air, planqué. Et on arrive, toute la bande de planqués de ce moment-là, et le jour où nous arrivions, la veille, les bâtiments qui devaient nous abriter avaient brûlé. Ah, ne riez pas. Ce qui va se passer est absolument horrible. Et nous nous retrouvons au régiment disciplinaire d'Orléans-Brissy, à côté d'Orléans. Moi, je m'en fous. Après Sarlat, un régiment disciplinaire, c'est du gâteau. Mais tous les planqués qui étaient là, qui ont vu ça, c'était épouvantable. Et je ne sais pas pourquoi, 3 mecs qui avons sympathisé, qui s'appelaient, bon, il y avait moi, il y avait Jean-Pierre Cassel, jeune comédien, et Maxime Sory, jeune clarinettiste. Et là, j'étais très timide, moi, parce que donc j'arrivais de Langon, dans cette ville de Paris, avec des gens qui n'ont pas le même accent que moi. J'ai un peu honte, quoi, d'être là. Je ne sais pas comment me tenir. Et Jean-Pierre Cassel me dit, écoute, vraiment, t'es sympa, mais t'es trop con, là. Viens avec moi, je t'emmène chez Simon. Qu'est-ce que c'est, Simon? Tu connais pas le cours Simon? Ben non, je connais. C'est un cours de théâtre. Mais je ne veux pas faire de théâtre. C'est pas la question. Ça va te supprimer ta timidité. Ah, d'accord. Et me voilà au cours Simon, puisque nous sommes rapatriés à Paris. Pour rentrer au cours Simon, il faut passer une scène. Je sais que je suis admis, puisque je suis Jean-Pierre et mon parrain. Et quand j'étais à Sarlat ne me gardait que pour 2 raisons. C'est que je gagnais les DRAC, c'est-à-dire les concours d'éloquence interscolaire, et que j'étais la vedette du théâtre de fin d'année. Et la dernière pièce que j'avais jouée, c'était le bourgeois gentilhomme. Et je dis, je vais passer une scène du bourgeois.
Et vous jouiez le bourgeois ?
Je faisais le bourgeois. Et je vais passer une scène du bourgeois. Et les scènes que vous passez se passent devant tous les élèves. Il y a 200 élèves qui sont là, dans la grande salle, vous êtes sur le théâtre, quoi. Et je commence ma scène, et au bout de 30 secondes, je vois tous les jeunes comédiens, ils n'en ont rien à foutre. Donc je suis mauvais. Ils commencent à parler entre eux et tout, etc. Et je me rends compte que c'est pas possible. Mais j'insiste. Je reste là, et Simon... Pourquoi il fait ça? Il me fait jouer du Marivaux. Est-ce que j'ai une tête à dire « Oh, madame, moi, je me meurs d'amour pour... » Pas du tout! Moi, j'ai pas ça du tout. Bon. Et à la fin de l'année, Simon dit « Il y a 3 élèves qui vont réussir. Bouzoufi, Cassel, Oliver. »
Donc Marcel Bozzuffi, Jean-Pierre Cassel, Michel Oliver.
Ouais. J'étais dans le coup. Mais moi, je savais que je ne serais pas comédien, parce que je les détestais tous. Les jeunes comédiens, ils avaient tous les défauts des grands et aucune des qualités. Ils s'enviaient. J'ai trouvé ce truc. Mais par contre, ça m'a libéré complètement la parole. Ça m'a libéré le geste. Je rentrais, et ça m'a beaucoup aidé quand après j'ai fait mes émissions de télé, parce que je savais traverser ma cuisine. C'est très difficile de traverser une scène. Et ça, je l'ai appris chez Simon.
Mais Michel Oliver, quand on a évoqué le Grand Véfour, mais alors votre père, quand il arrive au Grand Véfour, c'est juste après la guerre ?
En 48. Il achète... Voilà, mon père, il avait deux hôtels. Un hôtel à l'Alpe d'Huez et un hôtel sur la Côte d'Azur, qui s'appelait la Bouillabaisse, à la pointe de la Bouillabaisse, à côté de Saint-Tropez. Et ses clients étaient des joyeux lurons, comme mon père. Mon père était un mec qui adorait rire, qui adorait chanter. Et le meneur de cette bande s'appelait Jacques Fatt, le couturier. Et tous les soirs, c'était des chansons de corps de garde. À l'hôtel, il s'échangeait les chaussures avec les lacets, il les mettait dans... C'était... Ils hurlaient de rire, mais tout le temps. Et ils ont... Jacques Fatt dit à mon père, mais Raymond, c'est con qu'on puisse chanter nos chansons de garde que seulement un mois en été, un mois en hiver. Si tu viens à Paris, on chantera ça tous les soirs, on va rire toute l'année. Et mon père le croit. Il vend ses deux affaires et il arrive à Paris avec une somme déterminée. Et pour cette somme déterminée, car il ne voulait pas de dette, il trouve deux affaires. La moitié d'un bougna derrière les Champs-Élysées ou le Grand Véfour dont personne ne veut.
Donc le Grand Véfour qui est ce restaurant qui est l'un des premiers grands restaurants de l'histoire de France.
Hein, oui.
Et qui est situé dans le Palais Royal, au bout du Palais Royal, oui. Derrière la rue du Beaujolais.
Et donc, il prend le Grand Véfour qui était à l'époque un restaurant d'homosexuels. Il n'y avait pas de cuisine, c'était... Et il prend ça et il dit, les copains vont venir. Effectivement, les copains viennent. Tous les soirs, c'est la fête et tout, patin couffin. Mais ça dure quoi ? Ça dure ce que durent les roses. Donc, au bout de quelque temps, les copains viennent plus chanter les chansons de garde. Et mon père est là, dans cette affaire sublime. Et il faut qu'il la fasse marcher. Et un jour, Cocteau m'a dit, tu sais, Michel, l'intelligence, ça n'est pas autre chose que la faculté d'adaptation. Et il a ajouté, d'ailleurs, je ne suis pas intelligent quand je ne suis pas capable de changer les plombs quand l'électricité saute. C'était une boutade. Et le voilà avec cette affaire. Et il fait les plats qu'il sait faire. C'est-à-dire les plats du Sud-Ouest. Sans plus. Et puis, le miracle se passe. Le miracle, je tiens à dire une chose aussi qui est capitale pour moi, c'est que j'ai toujours pensé, à l'époque, on habitait Vincennes. Et quand on ratait le dernier métro, ça arrivait que des clients traînent, on couchait sur la banquette du restaurant. C'est moi qui faisais les halles le matin à 5 heures, donc c'était facile pour moi.
Et oui, parce que les halles étaient encore
à
200 mètres du restaurant.
Mètres. Et je n'ai jamais ressenti, quand on était allongé sur ces banquettes, on était, mais entouré d'amour, d'une atmosphère totalement enveloppante. Et je me suis dit, Véfour est une femme. Véfour est une femme, elle est amoureuse de papa. Et pour papa, elle va sortir tous ses atours. Papa est son prince charmant. De cette chose qui dormait, c'est la belle au bois dormant, et qui l'a réveillée. Et là, le miracle est arrivé. Le miracle est arrivé. Est arrivé le sommelier de l'Ermitage au Touquet, à la retraite. Est arrivé le premier maître d'hôtel du palais de Biarritz à la retraite. Et le chef du palais de Biarritz à la retraite. Et ces trois personnes ont dit, Monsieur Oliver, on a envie de travailler pour vous. mais je ne peux pas vous payer. On ne demande pas l'argent. On veut travailler pour vous. Et Véfour est né. Véfour est né parce que mon père a su les prendre, il a su en tirer le maximum, faire en sorte que les recettes qu'ils amenaient deviennent ses recettes à lui, Raymond Oliver. Il a créé le toast de crevettes Rothschild, le pigeon du prince Régnier, tous ces plats qui ont fait sa gloire. C'est lui qui les a créés à travers ces personnages qui étaient là. Et ben, je trouve ça miraculeux. La princesse avait bien travaillé.
Michel Oliver, vous avez évoqué ces nuits sur les banquettes, mais pour vous, c'était la première fois que vous étiez avec votre père.
Que je voyais mon père, oui. Hein, que je voyais réellement, oui, bien sûr.
Et quelle était la relation?
mon père, quand j'ai fait mes émissions de télé, j'en ai fait quand même 350 émissions d'une demi-heure. Lui, il en a fait 700. Mais bon, je l'appelais à la fin de l'émission. Il disait, papa, je sais que l'émission était vraiment très bonne. Papa, comment t'as trouvé l'émission aujourd'hui?
Oui, c'était pas mal. J'ai fait mieux, il me disait chaque fois.
Bon, papa, c'était ça. C'était papa. Il était comme ça, c'était un homme extraordinaire. Extraordinaire, moi, il m'a tout appris. Mais c'était Raymond, d'abord Raymond Hiver, c'était
un ogre,
un grand bonhomme. Difficile d'exister à côté de lui.
Et alors comment on trouve sa place à côté d'un ogre pareil?
Alors on trouve sa place parce qu'il voyage beaucoup. Parce qu'il voyage beaucoup, d'abord on ne trouve pas sa place tout de suite. Hein. D'abord, il me dit, je fais une semaine gastronomique à Stockholm dans le Grand Hôtel, tu pars diriger la semaine gastronomique. Je pars diriger une semaine gastronomique à Stockholm, c'est pas gênant. Je sais comment recevoir les clients et tout. J'arrive là-bas et le chef me dit, putain, ça va être long, 6 mois ici. Quoi? 6 mois? Ah oui, t'as pas dit ton père, tu es là pour 6 mois. Voilà le coup qu'il m'avait fait. Donc je me trouve 6 mois. Tout un hiver à Stockholm. Je m'embêtais. Alors, comme je m'embêtais, que je dessinais pas trop mal, j'étais me présenter aux Beaux-Arts. Et j'étais le premier Français admis à la Konstfackskolan de Stockholm, c'est les Beaux-Arts de Stockholm. Ça m'a servi après pour faire les dessins de mes livres pour enfants, évidemment.
Ah oui, de ce livre donc, dont nous parlerons demain, la cuisine est un jeu d'enfant, qui est un...
Donc je reviens à Paris, mon père, je lui dis, papa, j'ai une idée pour faire un petit restaurant qui s'appellerait l'Olivret. L'Olivret pour les olivers, c'était marrant. Et rue de l'Échelle.
Donc juste à côté du Palais Royal, là aussi.
Ah, juste à côté du Palais Royal. Donc, il accepte, on fait ce restaurant, je le dirigeais, j'étais payé comme un garçon, c'est-à-dire
au pourcentage,
et au pourboire, et mon père me prenait la moitié de mes sous, alors que l'autre garçon qui était là, il touchait tout son truc. J'ai dit, papa, mais pourquoi? Tu en as assez comme ça, et puis moi, ça me permet d'avoir des petites fantaisies. Évidemment... Sa femme tenait la caisse, et comme papa était un chaud lapin, il fallait qu'il ait un peu d'argent de poche pour ses frasques. Bon, ça n'a pas duré, parce qu'il y a des gens qui sont venus me dire, mais écoutez, monsieur Oliver, vous pouvez faire mieux que ça, et qui m'ont engagé pour ouvrir un magasin de disques à Bordeaux.
Avant de devenir disquaire à Bordeaux,
oui.
Comment se passe votre relation avec la nouvelle famille de Raymond Oliver?
Moi, je la comprends. Je suis pas aimé. Je suis l'empêcheur de tourner en rond. Je suis l'héritier. Je suis le garçon. Et il y a une chose qui m'a un peu fait mal. Bon, j'ai oublié. Ça me fait rire aujourd'hui. Tous les dimanches, j'avais le droit d'aller déjeuner avec eux dans la famille de mon père, avec mes sœurs, quoi. Et un jour, mon père m'a dit, tu viendras plus le dimanche. J'ai dit, pourquoi? Parce que ma femme trouve que tu manges trop de fromage. Ça m'a quand même beaucoup fait rire.
Oui, on voit d'ailleurs que ça vous fait rire encore aujourd'hui. Non, mais
c'est pas grave. Tout ça n'est pas grave. Tout ça, c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça m'a quand même aidé énormément. Ça m'a obligé à vivre, à s'accrocher à cette vie, à dire je veux m'en sortir. Je sais pas comment, car je savais pas comment à l'époque. Je n'avais aucune idée de mon futur. Je faisais la cuisine parce que c'était, je savais pas faire. Mais qu'est-ce que j'allais devenir plus tard? Est-ce que je resterai un commis de cuisine ou un... Mais j'avais aucune idée. Les choses se sont faites naturellement.
Mais là, le futur va tourner rond puisque vous allez être disquaire.
Oui, je suis disquaire. Ça se passe très très bien. Très très bien. Ils ouvrent une chaîne. Et toutes les autres affaires ne marchent pas. Il n'y a que la mienne qui marche. Donc ils ferment la chaîne. Et je me retrouve à Bordeaux. Je ne veux pas rentrer à Paris. Je me retrouve à Bordeaux. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais voir un autre disquaire que je connais. Je lui dis, tiens pas. Ah, il me dit, si, tiens, je vends des télés. Est-ce que tu veux vendre des télés pour moi? Je dis, bien sûr. Ce qu'il ne me dit pas, c'est que la télé n'est pas arrivée à Bordeaux.
Là, on est en quelle année?
Donc, je ne sais pas, mais un an avant que la télé arrive à Bordeaux. Donc, je vends des meubles qui ne servent à rien.
C'est la fin des années 50.
Voilà. Et j'arrive à les vendre. J'ai trouvé le truc. Ça me prouve que ça ne tourne pas trop mal. Je fais la banlieue de Bordeaux. Je repère une belle maison. Je sonne et je rentre et je dis, la télé va bientôt arriver. Je vous conseille de faire mettre une antenne parce qu'il va y avoir... Je ne parle pas de télé. Il va y avoir une telle
révolution.
Vous n'allez pas pouvoir avoir la télé avant 2-3 mois, une fois, parce que les antennes, il n'y en aura plus. Et le mec met son antenne. À partir de là, il ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est la maison d'à côté. Je sonne et je dis, votre voisin a acheté la télé. Quoi ? Ah ben oui, on a des postes merveilleux, à des prix possibles, la télé arrive demain, donc il a acheté la télé, c'est dommage que vous n'ayez pas une antenne et une télé. Donc je vends la télé au deuxième, alors que j'ai vendu qu'une antenne au premier. Et bon, je nourris ma famille, j'y arrive. Et
vous nourrissez aussi vos clients, je crois, parce que vous aviez un argument considérable, c'était le soufflé au fromage.
Ah non, ça c'est pas là, c'est après, quand je suis représentant en disque. Ducrété Thompson, qui cherche un représentant en disque, me propose d'être un représentant en disque pour 11 départements. C'est beaucoup. Hein. Mais ils n'avaient pas grand monde, ils avaient une seule vedette, c'était Aznavour. Mais Aznavour, ce n'était pas la vedette d'aujourd'hui. Hein.
Il n'était pas encore en haut de la
fiche. Il était connu, mais bon, c'était pas ça. La grosse vedette, c'était Brassens. Bon, j'ai pas Brassens, j'ai Aznavour. Donc, j'ai 11 départements, j'ai très peu de moyens, il faut que je me fasse inviter pour dormir. Alors j'ai un truc imparable, c'est le soufflé au fromage. Je me trimballe dans le coffre de ma voiture avec un moule à souffler. Et quand j'arrive chez les gens pour leur vendre les disques, je dis « Ah, au fait, vous savez, je suis le champion du soufflé au fromage. »« Ah bon ? » ?»« Et comment ça se fait ? » ?»« Écoutez, si vous voulez, je peux vous en faire un. »« Vous pouvez nous en faire un ce soir ?»« Ben oui. » Mais vous savez, l'hôtel est très... Ah, mais non, vous couchez à la maison, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je faisais un sublime soufflé au fromage et je couchais pour rien chez les disquaires. C'était pas mal. Hein. Il fallait s'en sortir. Et là-dessus, j'ai un accident de voiture. Et là, je dis, Michel, c'est fini. Tu arrêtes les conneries, tu rentres à Paris. J'appelle papa. Je dis, papa, je suis prêt à revenir. Il me dit, arrive vite. Génial. Et il me dit, arrive, vite. J'arrive, et j'ai ma place à la réception, et là je commence à savoir ce que je veux faire. Je commence à savoir parce que j'ai regardé autour de moi, j'ai pesé les gens, et je me dis, peut-être, je suis un peu plus malin qu'eux. Peut-être que je vais y arriver.
Et arriver à quoi, Michel Olivier ?
Arriver dans ce métier. Parce que ça y est, j'ai décidé que la restauration, je ne parle pas de cuisine, la restauration serait mon métier. J'ai décidé que j'aime le contact avec le client, j'aime satisfaire les gens, j'aime me satisfaire. Donc, et puis j'aime le froufrou, j'aime l'ambiance, j'aime l'excès, j'aime tout ça. Donc ça y est, je suis sûr de moi.
Et alors, à ce moment-là, le Grand Véfour a déjà ses 3 étoiles?
Oui, je pense qu'il en a 3. Et mon père voyage de plus en plus. Donc, j'ai compris pourquoi il m'a fait venir. D'une part, parce qu'il a voulu me sortir des problèmes. Et deuxièmement, parce que quand on téléphone, est-ce que Monsieur Oliver est là? Oui, il est là, c'était moi. Il avait trouvé le truc pour qu'il y ait toujours un Oliver dans la salle. C'était capital pour lui. Donc, ça y est, je vais faire mes preuves. Donc, je fais la réception un certain temps, et là-dessus, Jamin, qui a ouvert après le restaurant Jamin rue de Longchamp,
qui sera le restaurant Robichon,
et qui était maître d'hôtel au Véfour, part. La place est libre. Je dis à mon père, papa, il me dit oui, t'es très prêt à le faire. Et là, il s'est passé une chose qui m'a quand même secoué beaucoup. Je prends la place. Je m'y adapte tout de suite. J'y suis depuis une semaine. Et ma grand-mère maternelle meurt à Bordeaux. Et je dis à papa, je descends pour l'enterrement. Mais il n'en est pas question. Si tu descends volontairement, tu perds ta place. Je suis resté. Voilà, mon destin s'est joué là.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Michel Oliver? Comment évolue votre relation avec votre père?
Ah, mais ça va très très bien. Ça va très très bien parce que il a vu. Il a l'œil, hein. Il se trompe pas, hein. Il se trompe jamais. Il a vu ce que je savais faire. Il m'a vu prendre des cours d'anglais pour pouvoir être complètement fluent in English tout de suite. Il a vu le contact que j'avais avec le client. Il a vu que je savais de quoi je parlais quand j'expliquais une recette, puisque je l'avais faite. Et donc, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Il part au bout du monde, il part faire ses démonstrations en Amérique, au Japon, en tous les pays. Et je suis là. Et avec le chef Jean Écorce, qui est un très bon chef, à tous les deux, on tient l'atoll. Et on la tient bien.
Michel Oliver, alors je vous laisse pas partir sans que vous nous ayez fait une recette, mais alors peut-être une recette mythique. Laquelle?
Ah, quand j'étais en cuisine, au Grand Véfour, j'avais la charge de 2 recettes en particulier, puisque les tâches étaient bien déterminées, soit la seule Grand Véfour, soit le rognon aux 3 moutardes, qui était un des plats préférés de Jean Cocteau. Le rognon, il adorait ça. Donc, on peut peut-être essayer de raconter la recette du rognon. Alors, ce qu'elle a de particulier, cette recette, c'est que pour une fois, pour la première fois de votre vie, si vous la faites, vous allez manger des rognons qui vont être souples sous la dent, qui vont être moelleux. Pourquoi? Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend le rognon, on le coupe en deux, on le coupe en tranches et on fait sauter ces tranches et ça durcit les tranches de rognon. Non, non, non. Alors, un beau rognon que vous avez en partie dégraissé, pas trop quand même, hein. Vous le salez, vous le poivrez, vous le mettez dans un plat à gratin sans rien d'autre, et vous le mettez dans un four préchauffé à 240 degrés, fort, hein, pour 7 à 8 minutes. Vous sortez le rognon du four, il n'est pas cuit, mais il est doré. Vous le sortez du four, vous jetez la graisse, et vous mettez le plat avec le rognon dedans sur feu fort, vous ajoutez une belle cuillère à soupe de cognac, ou même un peu plus si c'était mon père, vous flambez, vous enlevez du feu et vous laissez le rognon reposer dans ce plat où il s'imbibe tout doucement de ce cognac. Mais surtout, il est entier, il est rosé, et vous allez voir ce qui va se passer. Bon, les trois moutardes, qu'est-ce que c'est ? C'est la moutarde de Dijon normale, la moutarde à l'estragon, et Cocteau adorait la moutarde anglaise en poudre. Donc, une demi-cuillère à café de moutarde en poudre. Vous mélangez tout ça avec trois belles cuillères à soupe de crème fraîche et vous laissez reposer. Le rognon, ça y est, vous le coupez en tranches. Mais attention, vous le coupez en deux d'abord sans longueur et ensuite en tranches. Mais il va s'écouler un sang légèrement rosé du rognon. Surtout, surtout ce sang, vous le récupérez car il va vous servir pour faire une sauce sublime. Bon, une fois que le rognon est coupé en tranches, vous ajoutez donc le sang qui est coulé dans le plat de cuisson. Et toujours dans ce plat, vous avez enlevé le rognon que vous avez mis de côté, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de fond de veau, la crème fraîche à la moutarde, vous mélangez en raclant, et à partir de là, vous ne devez plus y avoir d'ébullition. Pourquoi ? Parce que vous allez ajouter vos tranches de rognon, et elles vont finir doucement de cuire dans cette sauce qui est à la limite de l'ébullition, mais surtout qui ne boue pas. Vous rectifiez en sel si c'est nécessaire, une belle cuillère à soupe de beurre bien froid, et votre plat à gratin, vous le remuez d'avant en arrière, de façon à incorporer ce beurre pour obtenir une sauce luisante, merveilleuse. Et croyez-moi, mes enfants, vous allez vous régaler.
Merci Michel Audivin.
À voix nue. Réalisation Anne Pérez Franchini, prise de son Sandrine Malon, coordination Claire Poincignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.